Bon, ordre du jour assez long pour aujourd'hui et pour demain. Nous allons passer pas mal de temps ensemble et j'aimerais faire une rapide introduction du travail que nous allons faire ici. Donc, Gisela, est-ce que vous pouvez m'aider et me donner la présentation? Bien, donc nous sommes là. Comme je vous l'ai dit, le sujet pour ce groupe thématique est le futur du multipartisme. Nous allons parler de cela pendant plusieurs heures, ensuite pour notre session plénière. Pendant notre session plénière, donc nous allons parler de cela pendant plusieurs heures. Je suggère que l'on fasse un tweet. Que si l'on veut faire un tweet sur ce sujet, on utilise donc le hashtag qui se trouve donc sur l'écran. Pour ceux qui ne sont pas dans notre salle et qui nous aident à distance, ça les aidera à identifier la discussion. Bien, donc le facilitateur de ce groupe thématique est Adam Peake, qui est notre expert pour ce type de sujet. Moi-même, je serai le modérateur et mon rôle n'est pas de guider la discussion, mais de la faciliter. Raf Fatani est aussi la personne qui va m'aider donc à organiser cette discussion et Evan Lebovic va prendre les notes et sera le rapporteur de ce groupe thématique. Merci. Bien. Donc, nous allons avoir d'autres experts, outre Adam, qui va nous joindre, Wolfgang Kleinwarter, Alejandro Pesanti vont être là aussi. William Drake et Marilyn Marciel seront là aussi. Donc, ils vont nous donner quelques détails sur différents thèmes, différentes questions aussi. Et ensuite, la prochaine diapo, s'il vous plaît, c'est là. Donc, la structure de notre session, nous avons quatre sessions et la structure de la session, comme nous l'avons prévu, sera faite d'une introduction faite par un expert sur le sujet discuté pendant la session. Ensuite, nous allons poser quelques questions. Ensuite, nous allons. Et nous sommes le plus grand groupe thématique de Atlas, donc je pense que c'est important pour nous de nous diviser en petits groupes et d'avoir une discussion sur les questions, sur tous les thèmes qui nous intéressent liés à cette discussion. Ensuite, nous ferons des rapports, chaque groupe fera son rapport et ensuite on fera un résumé. Et le rapporteur fera un résumé, le rapporteur en chef fera le résumé de de tout le travail. Bien. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non? Bien, alors on continue. Alors, la prochaine diapo. Comme je vous l'ai dit, vous êtes les responsables de cette réunion. Ce n'est pas nous, Nous, ce que nous voulons, c'est savoir ce que vous pensez du futur du multipartisme. Donc, on a besoin d'entendre vos commentaires. On a besoin de savoir comment fonctionnent les choses dans votre région, dans votre pays, au niveau local, au niveau global. C'est le plus important pour nous, Donc, voilà. Nous devons faire cela parce que nous avons besoin d'un rapport de ce groupe thématique à la fin de notre session, c'est-à-dire demain après-midi. Et donc, commençons. Eduardo, oui, allez-y, vous avez la parole. Eduardo prend la parole. J'ai une question concernant le multipartisme et les multipartites. Donc, on a beaucoup de mots, multipartisme, partipartisme, égal, partipartisme, multipartisme égal et multipartisme sur le même pied. Je voudrais avoir une précision dans le contexte d'ICANN. Qu'est-ce que cela signifie, pour avoir une petite idée de ce que l'on met derrière ce terme et derrière ces différents termes. Oui, Alejandro. Alejandro Pisanti prend la parole. Je vais faire une note en bas de page sur le titre de cette session pour dire que je refuse d'utiliser le terme multipartisme parce que je pense que lorsque l'on dit multipartisme, on exprime une espèce de religion, de foi, au lieu de parler du fait, hein, du fait de la participation multipartite, de la gouvernance multipartite. C'est ça qui nous intéresse. Merci. Merci, Léon. Je suis d'accord avec ce que Alejandro a dit. Nous avons eu une eurodic et ce multipartisme est devenu une espèce de gag. Donc, les gens ne sont pas très et ne connaissent pas très bien le contexte. Ça les fait rire hein, parce qu'ils ne comprennent pas. Avril Doria a créé un nouvel acronyme pour le multipartisme hein, qu'on peut prendre avec un peu d'humour et c'est M17M, puisqu'on a le multipartisme, hein, donc on aime un M au début, un M à la fin, et 17 lettres au milieu en anglais, hein, multi-stakeholderism. Hein, donc ça fait M, 17 lettres, et M, projet, hein, par exemple. Donc on va dire qu'on pourrait faire une note en bas de page pour dire que ce n'est pas une religion. Et Evan prend la parole. Evan Lebovic prend la parole. S'il vous plaît, quand vous prenez la parole, vous devez vous identifier hein, pour les interprètes et pour me faciliter les choses, parce que c'est moi qui vais prendre des notes. Hein. Donc, je vous demande, quand vous prenez la parole, de vous identifier, même si vous avez déjà pris la parole auparavant. Merci. Bien. Bonjour à tous. Je suis à l'Olympique. Je pense que c'est un bon départ, puisque c'est une des choses. Hein. Et c'est une question que l'on peut faire, hein, l'expert en sujet. Hein. Je vois qu'il y a ici des gens qui sont beaucoup plus dans le processus de multipartisme que moi, donc je suis l'expert, mais bon. Mais en tout cas, cette idée de ism, d'isme, hein, elle nous amène à penser qu'il s'agit d'une philosophie, d'une croyance, et ce n'est pas vraiment le cas. Hein. Nous voulons parler de manière de travailler, c'est de ça que nous voulons parler. Hein. Et je pense que le multipartisme, c'est une façon de travailler, donc Eduardo, je dirais que dans ICANN, hein, les parties prenantes, ce sont des personnes qui sont intéressées par ICANN, qui sont affectées hein, par ce qui se passe dans ICANN. On a vu que ce mot est utilisé dans différents types de discussions quand on parle de transparence, par exemple. Hein. Ce ne sont pas des parties affectées ou concernées hein, ici. C'est vraiment les personnes qui ont un intérêt au sein d'ICANN et au sein de les différentes activité d'ICANN, voilà. Et donc, ce isme, c'est une discussion intéressante. Hein. On peut voir, on peut faire une discussion et dire que nous ne sommes pas un isme, nous sommes une manière de travailler, c'est tout. Oui, Carlos Siba a levé la main, donc allez-y, vous avez la parole. Je voudrais répondre à Adam. Plus qu'une façon de travailler, je dirais, je suis Sibra Subramanian de l'Inde. Je dirais que plus qu'une manière de travailler, je dirais que c'est une manière d'appliquer la gouvernance. Si l'on considère ce sens-là, je voudrais demander comment est-ce qu'on se réfère à la démocratie, à la monarchie, hein, aux différentes formes de dictature. Est-ce que c'est une manière de... Est-ce que c'est une gouvernance? Est-ce que c'est un isme? Est-ce que c'est un modèle de gouvernance? Est-ce que c'est une manière de travailler? Qu'est-ce que c'est? En tout cas, de toute façon, le multipartisme doit se référer à des modèles multipartites. Hein? Donc, les modèles multipartites de gouvernance ou les forme de gouvernance multipartisme, hein, je crois qu'il faudrait se mettre d'accord, avoir une petite discussion sur ce que nous considérons. Hein, avec une phrase précise qui sera ensuite utilisée en permanence par ICANN, donc c'est important. Merci, merci. Oui, c'est Carlos qui reprend la parole. Carlos demande la parole. Carlos, vous avez la parole. Merci, Léon. Je vais parler en espagnol. Et Carlos. J'ai deux questions ici que je voudrais aborder. J'enseigne à l'université, hein, à la faculté, je suis professeur, hein, et je parle en permanence du modèle multipartisme. Et je suis fatiguée de dire que c'est un modèle qui est bon pour l'administration et que c'est bien, c'est un modèle appliqué pour l'administration d'Internet. Pendant longtemps, j'ai vendu cela. Mais je dirais que depuis que je l'ai vécu de l'intérieur, hein, pendant plusieurs années, je pense que ce modèle doit être révisé parce que tous les modèles peuvent être améliorés, tous les modèles peuvent être rendu plus parfait. Donc, à partir de cela, j'ai deux questions que je voudrais aborder, que l'on pourrait peut-être discuter ici, en fonction de l'intérêt que cela peut éveiller au sein du groupe. En premier lieu, je ne veux pas être violent, bien sûr, hein, mais ou paraître violent, mais je pense que certains pensent, pour ne pas dire que moi aussi je le pense, certains pensent que ce modèle multipartite est fait comme une espèce de piège pour donc tromper les utilisateurs finaux et cela en faveur d'autres secteurs qui, lorsque l'on doit prendre des décisions, et ces autres secteurs, leur décision va avoir plus de poids que celle des utilisateurs finaux. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Et je pense que c'est important. Deuxième point dont il faut tenir compte. La participation est dans des conditions égales. Lorsque l'on parle d'un modèle dans lequel tout le monde doit participer selon des conditions égales et dans toutes les étapes de la prise de décision, de la génération de politique, ceux qui sont désavantagés, bien sûr, sont toujours les utilisateurs finaux, puisqu'ils n'ont pas le pouvoir économique de participer aux réunions. Des fois, et beaucoup d'entre eux me disent, hein, si on ne peut pas se rendre à la réunion, on peut toujours participer à distance. Mais ce n'est pas vraiment le cas. La participation à distance n'est pas si simple que ça. Et la participation à distance peut être réalisée si cet utilisateur ne doit pas travailler ce jour-là ou ne doit pas se consacrer à une tâche X, hein. Alors qu'il y a d'autres secteurs qui se consacrent à cela et qui cela fait partie de leur travail. Dans le cas du commerce, dans le cas du secteur de business, dans le cas du secteur gouvernemental, c'est le cas. Donc, je reviendrai à ce que je voulais dire, c'est-à-dire que ce modèle de multipartisme, hein, nous donne l'impression que c'est l'utilisateur final qui prend la décision dans des conditions d'égalité, mais je pense que ce n'est pas vraiment le cas. Je crois qu'il faudrait analyser ce concept et voir si vraiment c'est le cas et de quelle façon on peut analyser cela. Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire, mais je crois qu'il faudrait y réfléchir. Merci. Merci, Carlos. Je crois que la discussion va continuer et je crois qu'il est important d'écouter ce que Wolfgang a à nous dire, puisque c'est notre invité et notre expert d'aujourd'hui invité. Et bien sûr, après avoir écouté Wolfgang, on continuera à discuter, on posera des questions. Et à ce moment-là, on pourra continuer, hein, donc à parler de cela. Donc, nous allons donner la parole à Wolfgang. Et nous le remercions pour sa présence. Merci. Wolfgang, vous avez la parole. Merci, Léon. Merci de m'avoir invité ici aujourd'hui. Je dois m'excuser. Je suis arrivée en retard et je vais partir un petit peu à l'avance parce que j'ai une autre réunion donc, qui entre en conflit avec la vôtre. Donc, je partirai un peu avant. Vous comprenez? Si on regarde l'histoire, vous comprenez pourquoi nous parlons du multipartisme, du modèle multipartisme aujourd'hui ici. Très souvent, je pense qu'il suffit de remonter aux années 70, aux années 80, avant la fin de la guerre froide, lorsque l'on avait un grand processus international qui s'appelait le nouvel ordre d'information et des communications qui était discuté dans les Nations Unies, au niveau des organismes de communication. On essayait de voir comment le monde allait être organisé dans le futur. C'était cela, les discussions. Et ensuite, dans les 70 et dans les années 70 et 80, quand il n'y avait pas encore le web, On se rendait compte de toute façon que l'information et la communication étaient un point clé et les discussions à l'UNESCO et à propos de ce nouvel ordre étaient discutées seulement entre les gouvernements. Cela voulait dire que les partis comme les médias ou les personnes concernées par les informations ne participent pas à ce débat. C'était les gouvernements américains et russes qui en discutaient principalement. Hein? Il y avait le monde communiste, il y avait le tiers-monde et il y avait les États-Unis. Donc, c'était les trois donc, acteurs principaux, les médias, les utilisateurs, les personnes en général n'avaient rien à dire dans ce débat. C'était une approche d'un seul parti hein, et avec plusieurs parties, disons, conflictuelles. Après donc l'effondrement de cette situation, il y a eu plusieurs théories qui ont commencé dans les années 90. On a commencé à dire que c'était une erreur, qu'on ne pouvait pas discuter du futur de l'information, de la communication, sans tenir compte des personnes qui étaient effectivement concernées. Hein? Donc, il y a un livre très intéressant qui est sorti à cette époque-là qui s'appelait « Le pouvoir ». Et dans ce livre, il expliquait la complexité du monde dans ce sens. C'était le début des années 90. Hein? Et pour parvenir à un système plus distribué de prise de décision, pas seulement les gouvernements allaient prendre, donc allaient avoir la capacité de prendre des décisions, mais aussi des groupes à différents niveaux qui devaient être inclus aussi dans le processus de prise de décision si l'on voulait avoir des résultats durables. Donc, il disait que le problème du monde était en train de devenir trop important et que les gouvernements ne pouvaient pas les résoudre tout seuls. C'était le début des années 90, lorsque le web a commencé à être inventé. Et il n'était pas très clair à l'époque comment on allait s'organiser. Dans les années 90, il y a eu un sommet mondial organisé par les Nations Unies sur le problème d'environnement, des droits de l'homme à Rio de Janeiro. Et pendant ce sommet mondial, les ONG ont été invitées à participer, mais n'étaient pas incluses dans les débats politiques. Et donc, à Rio de Janeiro, les gouvernements étaient assis d'un côté de la salle et les organisations non gouvernementales étaient assises de l'autre côté de la salle. Et moi, j'étais aussi au sommet mondial de Vienne sur les droits de l'homme, relatif aux droits de l'homme. C'était dans l'immeuble des Nations Unies à Vienne et on avait de nouveau deux entrées séparées, une pour les représentants du gouvernement et l'autre pour les représentants des ONG. Les représentants des ONG faisaient leur réunion au sous-sol et les gouvernements au premier étage. Et il y avait une barrière qu'on ne pouvait pas traverser pour passer d'un espace à l'autre. Donc, c'était le signal vraiment que les gouvernements se sont rendus compte à ce moment-là qu'ils ne pouvaient pas discuter des droits de l'homme, des problèmes de l'environnement sans inclure les organisations telles que les ONG, mais de manière séparée. On en discute, nous, tout seuls, et on les laisse discuter de leur côté, et après, nous prendrons nos propres décisions. À ce moment-là, au niveau de l'ICANN, en 1998, il y a eu un changement de cette situation. Et parce que lorsque le débat a commencé à porter sur l'Internet dans les années 90 et que l'UTI s'est rendu compte que ça pouvait être quelque chose d'intéressant. Lorsqu'on leur a dit, on était en train d'organiser quelque chose pour le système de nom de domaine. Le gouvernement américain s'est rendu compte qu'il pouvait changer les choses. Il a proposé ce qui a donné ensuite la formation d'ICANN et il a pensé que la prise de décision était cruciale. Qui avait le droit de prendre une décision sur ces problèmes-là? Et le gouvernement américain a proposé un système. Ils ont dit d'accord. Les personnes qui sont concernées et qui participent à la construction et à l'utilisation de cela devraient avoir une capacité de prise de décision. Et les gouvernements ne seront que des conseillers dans ce sens. Et si on remonte aux statuts originaux d'ICANN, vous verrez qu'il y a donc le conseil d'administration qui a 18 membres, 9 qui viennent des fournisseurs de services, 9 qui viennent des utilisateurs de services. Et donc, il y avait un équilibre entre les fournisseurs et les utilisateurs de services. Et les gouvernements étaient des conseillers. C'était une innovation. C'était un petit groupe de personnes qui étaient concernées. Et les gouvernements ont dit, tiens, c'est intéressant. Que se passe-t-il? Ils sont allés en parler au sommet de l'Union internationale des communications. Et ils ont, à l'époque, c'était important parce qu'on a eu pendant 3 ans le sommet de la société de l'information a commencé à se demander qui prendrait les décisions. Est-ce que ce système permettait vraiment de représenter les fournisseurs de services et les utilisateurs? Et à ce moment-là, cela a donné lieu à notre modèle multipartite parce que lors de la première phase de ce sommet de l'information, de la société de l'information, il n'y avait pas d'accord entre le gouvernement chinois qui favorisait un leadership de gouvernement des gouvernements et le gouvernement américain qui favorisait un leadership du secteur privé. Donc il y a eu, on est arrivé à un compromis, on a décidé qu'on ne pouvait pas parvenir à une décision à ce moment-là et qu'on allait donc créer un groupe de travail avec Kofi Annan qui a établi ce groupe de travail sur la gouvernance de l'Internet. Et pendant 2 ans, ce groupe a travaillé sur ce thème de la gouvernance de l'Internet, dont le résultat a été que l'Internet n'avait pas besoin d'un leader et qu'il n'y avait pas de leadership du secteur privé ni de gouvernement. Et les gens devaient participer et toutes les parties prenantes devaient participer au développement de politiques et à la prise de décision de l'Internet et que l'Internet concernait un partage de matériel et que cette définition qui est venue de ce groupe de travail sur la gouvernance de l'Internet qui a dit que les principaux groupes sont le secteur privé, les gouvernements, la société, les utilisateurs et que tout cela forme une communauté. Ce que cette communauté doit faire, c'est de partager des programmes, des principes et des prises de décision ensemble. Le partage de la prise de décision est un élément clé pour ce modèle multipartisme. Et donc, il n'y a pas une seule partie qui va prendre une décision finale. Cela veut dire que toutes les parties qui participent, des fois 3, des fois 5, des fois 8, tout dépend du problème. C'est pour cela que maintenant, 10 ans plus tard, on a différents modèles de multipartisme et de prise de décision. Par exemple, au niveau d'ICANN, on a les gouvernements qui sont encore dans un comité consultatif. Donc, on a une procédure avec le gouvernement qui doit donner des conseils au conseil d'administration. Et c'est un bon modèle qui permet vraiment de partager la prise de décision parce que le conseil tout seul ne va pas prendre la décision. Il va la prendre en écoutant la communauté. Et on a différents comités consultatifs de différentes organisations de soutien. Tout le monde va donner son avis. C'est un processus qui va donner donc la prise de décision. Donc l'UTI est maintenant est un système multipartisme. Si on regarde les différentes procédures, l'UTI qui est invite différentes personnes à leur réunion, le secteur des ONG, etc. Et si l'on regarde l'IEGF, c'est pareil. On travaille sur le même pied. L'IEGF n'a pas une capacité de prise de décision. Si l'on regarde le MSI plus 10, c'est la même chose. La prise de décision finale, hein, c'est un groupe de la société donc qui va prendre ces décisions finales. Cela veut dire que on a plusieurs organisations mondiales qui existent et ce sont des acteurs hein, de ce multipartisme. Il faut voir maintenant comment on prend ces décisions finales. Hein. Donc, cet multipartisme basé sur un pied d'égalité hein, veut dire que toutes les parties vont participer au développement de politique et à la prise de décision. C'est cela le critère. Hein? Donc, on essaye de ne pas définir ce qu'est le multipartisme. Tout dépend du problème. Ce modèle multipartisme dépend de si c'est un problème de sécurité d'Internet ou dépend de la direction hein, et s'il s'agit de gérer les numéros et les noms et les chiffres et les numéros sur Internet. Hein, s'il s'agit de cyberdélit, la police et les gouvernements vont jouer un rôle précis. Hein, mais ils vont aussi avoir besoin de l'utilisateur final, du secteur privé, de la communauté pour s'organiser pour lutter contre le cyberdélit. Donc, dans certains domaines, il n'y a pas besoin des gouvernements pour prendre des décisions. Cela peut être fait par la communauté elle-même. Mais il faut quand même écouter les gouvernements et prendre leur opinion et en tenir compte. Hein. Donc, en fonction du problème, on va avoir un différent modèle multipartite, ce qui va dépendre du problème et des besoins découlant de ce problème. C'est pour cela qu'on n'a pas besoin de définir ce qu'est le multipartisme, parce qu'on a une très large variété de modèles. Et le problème était déjà défini dans ce sommet de la société de l'Internet lorsqu'on a parlé de partage du développement de politique et de la prise de décision. Voilà, c'était un élément clé que je voulais préciser ici.
Merci, Wolfgang. Comme je l'ai dit, c'est Leon Sanchez qui parle. On va continuer avec cette discussion. Je voudrais maintenant vous donner la parole pour poser des questions à Adam et à Wolfgang. Donc, Cyranos, je vois que vous demandez la parole. Allez-y. Cyranos Vardanyan qui prend la parole. Merci beaucoup. Je voudrais... Je ne dirais pas poser une question, c'est faire un commentaire plutôt. Parce que, à mon avis, le multipartisme, lorsqu'on y pense de la situation en 2007, à l'époque, j'étais dans un campement d'été où j'ai appris de M. Wolfgang, on parle de la façon dont on doit coopérer. C'est ça que ça veut dire, multipartisme. C'est le partage. C'est exactement la façon de trouver la solution, la décision. Donc, l'une des définitions, et à mon avis, ce qu'est le multipartisme, est une coopération améliorée, renforcée. Merci. Leon Sanchez, merci. Cyranouj, je vois une autre main levée. Vous avez la parole, Sergio. Sergio Bronstein, d'Internet à Venezuela. Merci. Je vais parler en espagnol. Léon, d'abord, tu m'avais vu avant que Wolfgang ne prenne la parole. Donc, si tu es en train de modérer une réunion et que tu vas changer l'ordre des intervenants, il faut que l'on demande aux intervenants de leur permission pour ce faire. J'en prends note, dit Léon Sanchez. Non, Sergio Bronstein, j'ai choisi ce sujet parce que cela m'intéresse, mais pas parce que je sache beaucoup de cette question. Mais j'étais surpris par le début de la session où on a eu un débat sur la sémantique du mot, sur la définition du concept de multipartisme, alors qu'en fait, il me semble que le débat devrait être la façon dont nous, les représentants des utilisateurs de l'Internet, voulons que l'Internet soit gouverné dans les prochaines 50 années. Donc je pense que c'est un problème d'ordre du jour aussi, un problème d'objectif. La façon de voir ce problème devrait être comment on veut que ce monde soit. Et dans ce monde particulier, dans notre monde réel, avec cette structure économique qu'on a, avec les structures du pouvoir existantes, comment l'Internet s'y intègre ? L'Internet qui est installé dans cet environnement, qui a une histoire particulière où un gouvernement particulier, pas tous les gouvernements, cèdent à la société civile, soi-disant le droit d'utilisation du réseau, se réserve le droit de veto pendant une période. Et donc on pense au gouvernement d'une façon, et on oublie qu'il y a eu un seul gouvernement qui a eu la volonté politique de gérer l'Internet et de maintenir même le droit de veto. Donc, je reprends aussi l'inquiétude de Carlos Aguirre. Et lorsqu'il a dit cela, ça m'a fait penser à ce que mon père disait. Mon père disait toujours qu'il y avait un écrivain français, Anatole France, qui disait que les lois interdisaient le riche et le pauvre de dormir dans les rues. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de dormir dans la rue. Et ce n'est pas une interdiction pour tous. Alors, pour reprendre ce que Carlos a dit, on n'a pas tous les mêmes possibilités de parler, de prendre la parole, d'être présent pour prendre la parole dans ce modèle multipartite. Donc, depuis le point de vue des utilisateurs, je pense qu'il y a des questions à définir. D'une part, comment l'utilisateur participe de façon active à la prise de décision et pas comme ça a été dit ce matin, qu'on a besoin des utilisateurs pour voir quels sont leurs retours, leurs opinions, leurs commentaires, leur travail. On n'a jamais dit qu'on avait besoin des décisions des utilisateurs. On n'a jamais expliqué comment les décisions vont être prises. Et je pense qu'au gouvernement mondial de l'Internet sur la forme de gouvernance de l'Internet. Ce qu'on discute est la façon de prendre des décisions et qui c'est qui va les prendre, et pas le niveau de disposition des décideurs pour intégrer les commentaires des autres. Il me semble qu'il faut qu'on ait ce débat. Maintenant, quant au multipartisme, récemment au Brésil, on a remis en question ce concept de société civile, parce que c'est différent d'avoir un académique, la Croix-Rouge et l'utilisateur final. Et en fait, au Brésil, on a divisé la société civile pour parler d'académique, d'utilisateur, de société civile et de scientifique. Donc, je vous propose tout cela parce que j'ai du mal à penser comment on gère le tout. Mais je ne voudrais pas discuter une question sémantique et je ne voudrais surtout pas que l'on oublie que le gouvernement est le pouvoir et qu'il faut que l'on façonne ce pouvoir, qu'il faut que l'on sache qui va l'occuper, etc. Leon Sanchez, merci Sergio. Ce sont de très bons commentaires que vous faites. Nous avons une queue et je vois monsieur qui lève la main.
France,
j'ai fait du travail de traduction pour la période avant le sommet Atlas II et j'ai eu du mal à traduire le mot multi-stakeholderism, multipartisme. Et j'ai vu en fait deux aspects. D'une part, la gouvernance mondiale et l'application pratique. Et j'ai traduit le mot dans le sens de participation mondiale comme partenariat, parce que cela implique une réciprocité et une participation. Ce sont deux concepts qui sont très importants dans la communauté à large, parce que cela nous donne la possibilité de parler avec une voix unique. Et ce serait un vrai pouvoir pour les discussions avec le secteur privé et la gouvernance. Merci. Leon Sanchez, merci beaucoup. Monsieur Camus, on a maintenant Wanda Scartesini. Oui, Wanda Scartesini prend la parole. Je pense qu'il faudrait qu'on se centre sur la façon d'atteindre un consensus. L'idée serait de prendre quelques modèles et de partir de la base de quelques questions pour pouvoir peut-être atteindre des conclusions et des points principaux facilement. Donc, il me semble qu'on devrait avoir d'abord quelques questions générales. Vous, en tant que président, vous avez suggéré cela. Et donc, il faudrait d'abord que l'on réponde à ces questions pour que ce ne soit pas une question si large, pour que l'on sache spécifiquement de quoi il s'agit. On n'a pas autant de temps. Donc, il faudrait que l'on ait des opinions. Et pour atteindre une seule décision avec toutes ces opinions et ces commentaires, il faudrait que ce soit plus spécifique. Autrement, on va tout discuter et ce sera difficile d'atteindre une conclusion. Merci. Leon Sanchez, merci. Wanda. En fait, il s'agit de discuter sur la base des questions qui ont été publiées, tout à fait. Et puis, on va se diviser en petits groupes. On aura un rapporteur par groupe qui fera un récapitulatif des aspects principaux. Et on reviendra à Evan qui va résumer le travail des différents groupes. Bertrand Lachapelle est aussi dans la queue. Bertrand Lachapelle, merci beaucoup. C'est une question, bien sûr, qui est en cours et je voudrais reprendre ce que disait Siva. Parler de isme ou pas, ce n'est pas aussi important comme comprendre que le niveau de la discussion est une comparaison entre ce genre d'approche et les autres genres d'approches qui sont utilisées par le passé. D'ailleurs, elles ont déjà été utilisées pour comprendre les systèmes autoritaires, les monarchies, etc., ou pour représenter le modèle démocratique où l'on désigne des personnes qui vont agir en notre nom pour une période de temps donnée. J'ai vu dans la transition de la démocratie représentative pour la plupart des systèmes monarchiques qu'on pouvait toujours avoir une seule personne qui représente un pays. Il y a beaucoup de monarchies constitutionnelles. On peut avoir même des systèmes présidentiels. Ce sont des monarchies constitutionnelles où le président a du pouvoir. Et donc, même si je dirais que je suis d'accord avec Adam, dans le sens qu'on devrait être modeste collectivement dans ce que nous croyons qu'on va accomplir par ce modèle, il ne faut pas que l'on soit excessivement modeste. Il s'agit d'un changement, un bouleversement fondamental. C'est le passage d'un vote par personne à une voix par personne. En français, c'est un peu confus parce que vote et voix, c'est un peu pareil. Mais ce sont des synonymes. Mais en anglais, la différence entre la voix et le vote, c'est beaucoup plus clair. Pour définir le multipartisme, cette approche multipartite, je pense qu'il faudrait que l'on reprenne un principe fondamental qui est qu'une personne ou une entité a le droit de participer de façon appropriée au gouvernement, au processus gouvernemental pour s'occuper des questions qui les intéressent. C'est aussi radical que le principe universel du droit de vote universel. Lorsqu'on y pense, la démocratie représentative a été introduite avec des droits de vote sélectifs. Il fallait avoir un niveau de revenu ou une catégorie d'éducation. C'était une question de classe. Mais lorsqu'on a avancé avec la notion que toutes les personnes, indépendamment de leur origine sociale, leur niveau éducatif, leur genre, l'âge, peu importe, ont le même droit de vote, c'était incroyable de voir que ça a si bien fonctionné, que ça fonctionne si bien toujours. Parce que ce qui est plus important est cette idée que tout le monde peut contribuer. Bien sûr, dans la définition que je donne, le terme « de façon appropriée » est un peu obscur parce que ce n'est pas évident d'avoir le même niveau de participation tout le temps. Ce qui m'amène à une deuxième question, qui est le fait qu'on parle de processus, on parle d'un flux de travail qui commence par l'établissement d'un ordre du jour et où le cadrage de la question est essentiel. Et le plus les personnes contribuent à ce processus, le mieux sera le résultat. Et donc, on peut atteindre un consensus sur l'étape de validation et l'étape de mise en œuvre et puis d'application des résolutions prises. Donc, le fait de documenter ce flux de travail serait l'équivalent de l'approche qui a été adoptée pour la démocratie représentative par la séparation de cette question de séparation de division de pouvoir. C'est les deux qui sont importants. Cela dit, dans chacune de ces cinq étapes, pour répondre à votre question, est-ce qu'on a un seul modèle multipartite? Non, en tout cas, il y a une seule mise en œuvre du modèle. Je pense que cela est de plus en plus spéculatif. Et bien que Lacan parlait constamment de modèle multipartite pour Lacan, on a tous avancé. Il faut que l'on accepte le fait que si les pays comme le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et les États-Unis, ce sont toutes des démocraties représentatives et cependant, leur architecture est complètement différente, mais se centre sur les mêmes modèles. Cette approche, de même, peut porter sur une organisation internationale, des gouvernements qui ont beaucoup de contributions des différentes parties prenantes, et être de toute façon une organisation comme ça-ci, où tout le monde peut faire des contributions, mais où la prise de décision est indépendante. Donc on a différents modèles de mise en œuvre. Et finalement, tout le débat auquel on doit faire face, parce qu'on parle de l'avenir de multipartisme. La discussion fondamentale, à mon avis, qui nous vient depuis Net Mondial, est le passage de la définition rigide des parties prenantes qui ont été établies par les différents participants. Et il faut que l'on comprenne que les différentes parties prenantes le long du processus, dans les différents niveaux de mise en œuvre et dans les différentes versions de la mise en œuvre, peuvent varier. On a un genre de discussion qui peut varier, donc, mais le principe fondamental est toujours qu'il faut que l'on ait la possibilité de contrôler, de faire un suivi qui est de la transparence et de la reddition de comptes, que l'on puisse contribuer pour les représentations, etc. Et d'avoir aussi des mécanismes de reddition de comptes. Donc il s'agit d'un cadre qui doit absolument être plus formel. Et pour finir avec une analogie, ARPANET n'était pas l'Internet. ARPANET était un genre de une genre d'expérience de ce concept. Ils ont commencé par faire des expériences et ils voulaient répéter ces expériences. Mais c'est différent maintenant. L'ICANN est l'ARPANET de ce modèle multipartite. Ce n'est pas un modèle achevé, c'est un modèle en cours. Mais si l'on veut qu'il soit élargi et répandu, il faut que l'on simplifie son approche conceptuelle et il faut que l'on puisse la répéter, qui est le cas avec l'IGF en quelque sens, et il faut qu'il soit présenté et que l'on démontre que l'on peut résoudre des problèmes de par ce modèle, et pas simplement lorsque on a des cas faciles, mais aussi lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on a du mal. On a eu un peu de mal à mettre cette approche en concept. C'est ça ce que je pense. Léon Sanchez, merci Bertrand. Maintenant, Alejandro Pisante était dans la queue aussi. Merci Léon. Alejandro Pisante. D'abord, j'ai une question procédurale. Le format de la séance a deux experts invités, qui sont Wolfgang Kleinwachter et Adam Pick. On a, je pense, sauté la partie des notes de leur part parce qu'on avait des questions. Mais si Adam Pick voulait parler en tant qu'intervenant principal, je lui redonnerai la parole. Adam Pick. Non, Alejandro, allez-y. J'avais l'objectif, avec d'autres personnes qui sont ici, Melly, Wolfgang qui doit partir. On a plein de personnes ici qui sont des experts dans la matière. Et on essaiera de répondre des questions en tant qu'intervenant principal, mais on est intéressé à entendre vos avis. Allez-y, s'il vous plaît. Alejandro Pisante, merci. J'ai essayé de m'assurer que nous n'avions pas interrompu le format de la séance qu'on avait prévu. D'abord, j'ai une question pour Sergio Brownstein, un commentaire. Je pense que l'une des caractéristiques principales qu'il faut que l'on tienne à l'esprit pour l'évolution de formes de participation multipartite pour la prise de décision, et on imagine qu'une grande partie de la population mondiale voudrait vivre dans un monde qui serait meilleur et qu'une partie de cette population mondiale serait d'ailleurs prête à changer le monde et la façon dont ce monde fonctionne. On a différentes manières de le faire. Et donc, ce qu'on essaie de faire pour des ressources mondiales telles que l'Internet, l'environnement mondial, il faut que l'on s'assure que ce soit un modèle échelonnable, que l'on puisse appliquer aux différents modèles politiques, qui soit dans la mesure du possible agnostique et qui ait un niveau de participation égalitaire pour la société en général. Les modèles multipartites doivent penser à l'avenir, ils doivent prévoir ce qui va venir. Ils ne doivent pas se centrer sur le passé, mais il faut qu'ils s'assurent qu'on ait autant d'avenir ouvert que possible, qu'on ne sera pas attaché à un seul avenir. Pour ce qui est de la participation multipartite, j'ai quelques conclusions que je pense seraient pertinentes. Vu qu'on a beaucoup de personnes qui ont participé à la gouvernance multipartite à travers la participation sur Internet, avec la gouvernance de l'Internet, on a tendance à oublier qu'il y a d'autres champs d'efforts mondiaux qui sont des endroits de prise de décision mondiaux au niveau national, international, sous-national, local, ce qu'inclut les gouvernements qui ont un modèle très important dans le panel intergouvernemental de changement climatique, par exemple, où les décisions sont toujours négociées entre gouvernements. On a des modèles également comme le Forum sur la gouvernance de l'Internet qui ne prend pas des décisions. On a des modèles du monde des finances, de la banque. Il y a des modèles qui sont très corrompus. Il faut qu'on fasse attention à ne pas les répéter. Il faut qu'on apprenne de chacune de ces expériences. D'autre part, la participation multipartite, et cela fait partie d'une recherche qui a été demandée il y a quelques mois, la participation multipartite a donné le pouvoir aux différents secteurs de différentes manières. Comme Sergio Bronstein a dit, le rôle d'un seul gouvernement, et il faut qu'on puisse mentionner cela, il s'agit du gouvernement des États-Unis qui a eu l'initiative de travailler sur la gouvernance de l'Internet. Et c'était donc un pouvoir asymétrique des États-Unis par rapport aux pays en voie de développement ou aux pays européens ou même aux économies briques en voie de développement. Cet équilibre de pouvoir a changé et s'est incliné envers d'autres parties prenantes. C'est ça qui est mentionné comme coopération renforcée. Quelqu'un a parlé de coopération renforcée tout à l'heure. Il y a plusieurs lectures différentes. Mais pour ceux qui ont participé au SMSI, vous vous souviendrez qu'il s'agissait d'un processus parallèle au Forum de la gouvernance de l'Internet. On disait que c'était une autre discussion. Et en effet, c'était une discussion maintenue dans une autre partie de la salle. Par exemple, à la Cannes, les participants non commerciaux ne pouvaient pas participer jusqu'à 2003. À l'époque, les personnes en voie de développement ne participaient pas. Et à partir de ce moment-là, le NCG, donc l'unité constitutive ou le groupe de parties prenantes des participants non commerciaux, ont créé un modèle qui a changé. Et cela a encore changé l'équilibre pour le bénéfice des unités constitutives non commerciales. Cet équilibre a été rétabli au sein de la CAN, mais cela n'a pas eu un effet direct sur les politiques comme on aurait voulu. Ce n'est pas une étude historique simplement pour notre curiosité. Il s'agit de trouver des leçons à mesure qu'on avance. Et ce qu'il faut qu'on apprenne à partir de ces séances, puisqu'on discute les différentes visions du modèle multipartite. On pourrait parler au lieu de modèle de participation multipartite. Il faut qu'on le considère de façon plus large pour l'ICANN. Et je pense que le genre de discussion dont on a besoin serait quelles sont les caractéristiques de base des modèles multipartites qui peuvent fonctionner. Je pense que Wolfgang et Bertrand ont déjà souscrit à la vision des personne qui venait du secteur technique, qui était qu'il y a différents champs d'application. Si on va travailler sur le cyberdélit, il faut que toutes les parties prenantes participent. Mais on a besoin d'aide de la police, de la coopération multilatérale ou bilatérale, des agences et des organismes d'application de la loi. Et donc, on a besoin de pouvoir échelonner ce modèle, de pouvoir le répéter. Et ce sont des discussions qui pourraient être menées dans les plénières et dans les différents groupes de participation. On a différentes caractéristiques qui incluront la réciprocité, la simplicité, la subsidiarité et d'autres T qui ont un impact et qui ont été mentionnées au panel de stratégie de la CAN. Merci. Leon Sanchez, merci Alejandro. On a d'autres personnes dans la queue. On a Uriel Lanzipuro et puis on a quelqu'un qui est ici. Voilà, là-bas. Et après ça, Marilyn Maciel et Carlos Aguirre. Merci, Monsieur le Président. L'approche multipartite des Uri-Lansipuro était une grande réussite au niveau du mantra. Mais ce pourrait également être une faiblesse que d'avoir réussi comme cela, parce qu'à un moment donné, il faudra que l'on passe du mantra à la méthode. Et ce n'est pas facile à faire. Lorsqu'on commence à développer la méthode, on essaie bien sûr de développer quelque chose qui sera bonne pour toutes les situations, qui correspondra à tous. Et je suis content de voir que cette situation avance maintenant dans ce concept où on n'a pas une taille unique qui corresponde à tous. Donc, il nous faudrait peut-être des principes plus généraux pour avancer avec ce qu'a dit Wolfgang Kleinwörter. Ce sont les principes défendus qui viennent du groupe de travail sur la gouvernance de l'Internet pour le partage des responsabilités. À partir de ce point-là, je pense qu'on devrait pouvoir prendre un rôle empirique et au lieu que de discuter cela, on devrait pouvoir commencer à agir, à pouvoir appliquer cela aux différentes situations, aux différents environnements par rapport aux endroits où on se sert de cela de différentes façons. Et peut-être qu'à partir de ces expériences, on pourrait développer une théorie pour continuer à aller de l'avant. Donc, je voudrais citer Mao Zedong lorsqu'il a dit que à travers la révolution, on n'apprend pas d'abord à faire la révolution et puis on la fait, mais qu'au lieu de cela, on fait une révolution d'abord et que c'est en agissant qu'on apprend de la révolution. Naim Wolf, je viens de l'Inde. Mon avis sur le multipartisme est d'abord qu'il s'agit d'un concept qui devrait être considéré dans le sens large pour inclure les gouvernements et le secteur privé et la communauté technique, parce que la discussion sur la société civile serait peut-être une discussion plus inclusive dans d'autres forums où tout le monde pourrait participer et donner leur avis. Mais ayant dit cela, je pense que le but du multipartisme devrait être de répondre à la question de « pourquoi pas ?» Et chaque composant a été classé afin de contribuer à trouver une solution entre les lacunes pour la solution. Par exemple, si le gouvernement n'arrive pas à trouver une solution, on devrait pouvoir trouver l'équilibre entre les gouvernements et la société civile et le consensus de la communauté d'utilisateurs. Voilà comment fonctionnerait le multipartisme, à mon avis, dans la durée. Et que la société civile, il me semble, devrait avancer avec le droit constitutionnel de représenter le public et que ce qu'ils disent est définitif. Donc, ce que je voudrais dire est qu'il doit s'agir d'un rôle où l'on assiste et on cède les uns les autres. Mais il faudra que l'on fasse face à deux défis pour le multipartisme. D'une fois, une étape initiale à laquelle on doit essayer et s'adonner à être inclusif, où il faut que l'on partage les nouvelles pour la prise de décision. On a des défis de limites culturelles, des structures légales, juridiques. On a différentes sociétés et structures, des questions de d'économie, de finances, de société, mais on espère que tout ira mieux demain. Et les autres défis devraient avoir une certaine diversité. C'est un défi pour l'Inde. On espère que dans les différentes années de gouvernance, on aura un défi. Il y en a différentes personnes, différents défis. Quel est le définitif? Et donc, je reviens sur mes idées originelles sur le multipartisme, c'est qu'on devrait avoir le propos de trouver une solution pour les autres au lieu que de leur donner un problème, de leur présenter un problème pour l'avenir. Et lorsqu'on veut inclure tout le monde, cela prend du temps et de la patience, bien sûr, aussi. Merci. Maintenant, Leon Sanchez, on a monsieur avec le t-shirt blanc. Je ne sais pas votre nom. Je m'appelle Joemi Michael. Je viens de l'Afrique. Je suis un membre du conseil exécutif de NIRA, qui est l'association internationale Internet du... Et je voulais dire qu'il me semble une question très apte, qui devrait être prise au sérieux. Et par la discussion, lorsqu'on discute le multipartisme, il me semble que c'est comme parler de la bande large, de la largeur de bande, de la bande passante. C'est une question que l'on ne peut pas souligner et qui devrait être encouragée, qu'on devrait tous être encouragés à continuer ces discussions. Wolfgang vient de partir, j'aurais une question pour lui, mais je voudrais partager ici, avant d'aller le voir personnellement, une opinion, un avis de mon organisation. Dans le sens numérique, on s'est rendu compte aussi que l'engagement avec les gouvernements, à mesure qu'on essaie de s'engager avec les gouvernements en tant que société civile, et que le gouvernement même, les agences gouvernementales elles-mêmes ne sont pas unies, que les personnes qui devraient les représenter devraient s'engager à la prise de décision pour la population et que le niveau de compréhension n'est pas ce qu'on attend. Donc je voudrais que les autres puissent partager leur avis sur la façon dont ces défis pourraient avoir un impact sur nos vies. Parce que c'était une question assez bureaucratique, on a vu, une configuration assez bureaucratique pour le modèle de différents parties, différents pays en voie de développement. De même, les gouvernements doivent se rendre compte que la société civile devrait avoir un rôle à jouer dans le multipartisme, parce que les gouvernements ne peuvent pas agir tout seuls. Il faut que l'on insiste sur cela. La question de multipartisme est donc importante pour tous. Merci.
Merci beaucoup. Nous avons maintenant Marie-Lé Maciel. Et je vais demander aux autres personnes qui sont dans la queue, qui ont déjà pris la parole, je vais leur demander d'accepter que l'on donne la priorité aux personnes qui n'ont pas pris la parole encore. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien, parfait. Bien, donc maintenant, nous avons Marie-Lé. Merci beaucoup, Léon. Je voudrais faire un commentaire sur deux processus qui ont eu lieu récemment. Le premier, parce que ça n'est pas lié à la participation multipartite. Et ensuite, un autre, parce que cela concerne ce problème. Le premier est un événement de haut niveau qui a produit des documents récemment. Et ensuite, je voudrais savoir si je voudrais vous parler du rapport de haut niveau de ICANN. Donc, cet événement, SMSI plus 10, est un événement qui a lieu tous les ans. L'objectif de cet événement de haut niveau était pour voir comment avait lieu la mise en œuvre de SMSI, comment est-ce qu'on en était à ce niveau-là, essayer d'évaluer les tendances qui apparaissaient, essayer de voir si on pouvait avancer avec la communauté dans ce domaine. Donc, notre réunion a donné lieu à un document, je pense, pense qu'il faut souligner qu'il y avait aussi une plateforme pour la discussion multipartite et bien qu'il y a eu des négociations de dernière minute sur des points clés sur lesquels ils n'étaient pas parvenus à un accord, ils ont quand même mis en place un système multipartite et on a atteint un accord, on est parvenu à un accord. Donc je pense qu'il est important de souligner que dans ce processus, on s'est focalisé sur le document de Genève et on a laissé la plupart des points qui sont encore controversiaux en ce qui concerne la gouvernance de l'Internet. Et certains des points que nous avons discutés ici, comme par exemple la participation multipartite et le rôle et la responsabilité des différents acteurs à l'extérieur de ces discussions. Hein. Et donc, ce n'est pas encore clair si ces points sont encore des points ouverts. Et NetMondial a reconnu qu'il y a des problèmes qui sont encore ouverts, comme les rôles et les responsabilités des acteurs. Où est-ce que les décisions allaient être prises? Ce n'est pas très clair. Hein, on ne sait pas encore comment SMSI plus 10 va être organisé en 2010. Et je pense que chaque point ici dans notre ordre du jour doit être d'aborder ces discussions à ce point de la société et de continuer à travailler sur des espaces multipartisme comme le FGI. Donc, je pense que ce sont des points que nous devons analyser dans le futur. Un autre processus qui, à mon avis, ne doit pas être laissé de côté, c'est le rapport qui va résulter du panel de haut niveau de ce comité de haut niveau qui a été créé, qui a été organisé par ICANN. Je pense que ce rapport est un point clé, est un document jalon de documentation concernant la participation multipartite et il va contenir ce qui a été discuté lors de Net Mondial concernant la feuille de route, surtout. Hein, et c'est un point important puisque certains acteurs pensent que Net Mondial aurait pu être plus concret dans le domaine de la feuille de route. Il y a de très bons points, des suggestions qui sont présentes dans ce rapport et nous devrions en tenir compte. Il y a des suggestions concrètes sur la façon de mettre en œuvre un modèle de gouvernance distribuée, c'est quelque chose que la société civile, la communauté a demandé dans ce document qui a été lancé et il y a un mois, qui a été créé, qui a été rédigé il y a un mois. Mais je pense que les points importants que ce rapport n'aborde pas, c'est que à la fin du rapport, il y a une série de questions que les panélistes ont considérées comme étant des questions encore ouvertes, sans solution, comme par exemple l'équilibre entre la participation et le reste au niveau de la société civile. Pour l'utilisateur final, ce sont des points clés et on ne peut pas continuer à avancer, essayer de mettre en place un modèle distribué ou bien réparti si l'on ne sait pas encore comment on va inclure toutes les voix qui participent à ce processus. Donc, je pense que ce rapport est quelque chose de très important. Il nous faut en tenir compte. Il nous faut analyser cela dans le détail pour être sûr que ce rapport va vraiment contenir ces bonnes idées. Il y a aussi des considérations importantes pour les pays en voie de développement qui ne participent pas assez. Donc, les ressources finales, et ce qui concerne le savoir, tout cela, c'est fondamental. C'est fondamental d'avoir des ressources pour pouvoir participer. Mais comment? Et donc, la mise en œuvre est très importante. Un autre point clé que je voudrais mentionner, Adam m'a demandé de l'aborder, cela concerne les gouvernements et les modèles de gouvernement nationaux. Lorsqu'on parle de gouvernance, on se focalise sur la gouvernance internationale. Mais il y a différents modèles de gouvernance, le niveau régional, national, mondial, etc. Donc, certains d'entre nous ont constaté qu'il était important que les décisions soient prises au niveau le plus près possible de l'utilisateur final, parce que cela permet aux utilisateurs de participer. Cela tient compte de leurs besoins et des besoins qui existent sur le terrain. Une bonne expérience que nous avons concernant la participation et des multipartites est celle du Japon. J'ai travaillé là-dessus, le multipartisme aussi au Brésil. Donc, pour vous dire qu'il y a ici différentes personnes qui travaillent sur ces points-là. Et lorsque l'on parle de la participation, de la gouvernance, hein, il faut parler de la participation à différents niveaux, pas seulement au niveau mondial. On a vu cela au Brésil. Hein. Ce n'est pas un modèle qui peut être copié, mais ça peut être une expérience, un exemple, quelque chose dont on peut tenir compte ensuite, qui peut être intéressant pour renforcer la participation multipartite au niveau national. Merci. Merci beaucoup, Marie-Lee. Nous avons encore 5 personnes dans la queue. Donc, pour continuer le travail de ce groupe, je vous propose d'arrêter la queue ici, de ne plus accepter personne dans notre queue. Hein. Et puis, il y a des personnes qui n'ont pas pris la parole, comme par exemple Sunny Lou. Et bonjour, c'est Sunny. Sunny Lou, je vais parler en anglais. Le multiple. Partisme. Lorsque j'ai entendu ce mot pour la première fois, je me suis rendu compte qu'en fonction des gens qui l'utilisent, ce mot est compris d'une façon différente. Pour moi, ça veut dire que chacun peut avoir une voix dans le développement de politique, le processus concernant ce développement de politique. Et lorsqu'il s'agit de dire que chacun peut avoir une voix ou un vote, cela nous emmène à parler de la situation de chacun, est-ce que nous sommes tous sur le même pied, parce que certains peuvent avoir une voix qui est davantage entendue dans cette communauté. Il y a des opinions hein, et qui sont plus entendues que d'autres. Et puis, on dit la même chose pour la partie technique. Hein. Les personnes qui travaillent dans le nom de domaine, les adresses IP, ont peut-être plus de leur voix ont peut-être plus d'impact hein, dans ce sens. Alors, je me demande comment est-ce qu'on peut avoir une proportion égale et que chacun et la voix de chacun ait le même poids dans ce système de gouvernance. Hein. Ensuite, d'après ce que j'ai compris, le système est quelque chose d'organique. Il ne peut pas être décidé par une autorité ou une personne en particulier. Hein. C'est un processus comme la démocratie qui a avancé dans le temps. On a constaté qu'il y avait des problèmes et on a résolu ces problèmes. C'est pareil. Donc, le multipartisme fonctionne de manière réussie dans ICANN, je pense. Et je pense qu'il faut continuer à travailler de cette façon-là. De cette façon, c'est bien, hein, mais il faut se demander quand même comment on peut améliorer les choses tout le temps. Le problème que je constate, hein, en tant que personne nouvelle au sein de l'ICANN, le problème que je constate, c'est que ICANN utilise une stratégie pour pousser hein, les gens qui donc entrent dans ICANN, font entendre leur voix, expriment leur opinion, mais les gens qui ne sont pas qui ne participent pas à ICANN, qui ne sont pas dans ICANN, les gens qui ne sont pas intéressés par les problèmes de la gouvernance d'Internet parce qu'ils pensent que les gouvernements doivent s'en occuper ou parce qu'ils pensent que les gouvernements n'ont pas un impact direct dans cela, ils ne participent pas à ces réunions. Moi, j'ai de la chance parce que mon organisation a considéré qu'il fallait envoyer des gens, des jeunes dans ce secteur et donc on m'a envoyé participer à la réunion d'ICANN. Maintenant que je suis là, je me rends compte que ce type de problèmes sont très liés à notre utilisation quotidienne de l'Internet. Un exemple, je viens de Hong Kong et là-bas, et on vote actuellement en ligne et il y a eu des serveurs qui ont été critiqués parce que certains gouvernements n'ont pas bien organisé cela. L'idée originale était d'avoir une application, un site Internet, et puis on a constaté que ça ne marchait pas. On a essayé d'attaquer le site. Hein, et donc, voilà, c'est là que je me suis rendu compte que c'est important qu'on soit là, c'est important, et que cela a un impact sur notre vie quotidienne. Le fonctionnement de l'Internet a un impact. Hein. Bien, nous devons trouver une solution pour la question suivante. Comment faire participer les gens qui ne sont pas des gens dans notre communauté parce qu'ils ne sont pas intéressés ou parce qu'ils ne se font pas de soucis pour ce qui est l'Internet et le fonctionnement de l'Internet. Voilà, ça c'est ma question. Merci. Maintenant, l'autre personne qui n'a pas encore pris la parole, c'est Sandra Hofrichter, donc on lui donne la parole. Merci beaucoup, Léon. Sandra Hofrichter prend la parole. Je voudrais partager quelques pensées avec vous. Ce n'est pas des solutions, ce n'est pas des déclarations. Hein. Alors, où en sommes-nous maintenant? L'Internet est un système qui affecte, qui concerne des millions de gens dans le monde. Mais les gens qui s'occupent de la gouvernance de l'Internet forment un tout petit groupe de personnes et il faut qu'on soit vraiment très conscient de cela lorsque l'on parle de l'impact global de ce que nous faisons, par exemple. Lorsque je parle avec mes amis en Allemagne, des amis cultivés, j'ai des problèmes pour leur expliquer pourquoi l'Internet doit avoir une gouvernance, parce que pour eux, tout a l'air de bien fonctionner, ils ne voient pas vraiment l'intérêt de participer, de créer un nouveau modèle de gouvernance pour l'Internet ou un modèle multipartite pour l'Internet. Donc, lorsqu'on dit tout le monde a une voix et peut participer, et je dirais qu'en Allemagne, les gens font confiance à leur gouvernement et ils disent, je pense que je vote pendant les élections et j'attends que le gouvernement en fonction puisse résoudre mes problèmes. Donc voilà, les gens ne se rendent pas compte que le gouvernement n'est plus responsable, que c'est l'utilisateur final qui est responsable, mais l'utilisateur final n'est pas intéressé et il ne veut pas participer. Donc voilà, on en est là. Je suis ici au sein d'ALAC comme représentante de l'Europe pour les utilisateurs finaux, mais aucun des utilisateurs finaux n'a voté pour moi. C'est un petit groupe de personnes qui a dit, d'accord, ok, Sandra va contribuer, va être responsable de ce contenu auprès d'ICANN. Et lorsque je parle aux utilisateurs finaux, au cours de réunions avec un verre de vin, j'essaie de leur expliquer ce que je fais au sein de ma vie professionnelle, lorsque je voyage, etc., j'essaye de leur expliquer, bien, je vous représente, je leur dis. Ils ne comprennent pas très bien dans quelle mesure je dois les représenter, ce que je peux faire pour eux. Ils ont une autre vision des choses. Et donc, je pense que tout cela, c'est une discussion qui est importante. Il faut savoir que d'un côté, on parle d'une source mondiale de l'Internet qui n'est pas aussi... qui a un impact immense en tout cas. Et il faut tenir compte du fait que ce que nous faisons ici, nous n'avons pas une participation internationale et mondiale, comme pour ce qui concerne le climat, par exemple. Nous n'avons pas une présence aussi forte. Et je voudrais dire, par rapport à ce que Alejandro a dit, ce n'est pas un modèle multipartite, parce que finalement, la décision finale, quand il s'agit du climat, par exemple, elle est prise par une partie seulement, par un parti seulement, pardon. Et donc, je pense que ce que nous pouvons faire ici, c'est de réduire la portée de notre approche. Et à la fin de ces sessions, nous devrions revenir à notre titre et faire une suggestion additionnelle, voir un petit peu comment renommer ce groupe. Nous sommes ici pour la réunion de ICANN. Il y a d'autres défis importants comme la transition de la fonction IANA. Et il faut que l'utilisateur final participe à tous ces processus. Donc, à ce stade, au niveau de l'ICANN, et je dirais qu'il nous faut parvenir à faire un modèle qui fonctionne vraiment. Et à ce moment-là, on pourra peut-être avoir un impact supérieur au niveau mondial et la prochaine étape serait le FGI, etc. Parce qu'à ce moment-là, on sera plus reconnu, on sera davantage reconnu. Si on arrête de mettre autant de questions religieuses et essayer de voir comment on peut vraiment avoir une contribution qui ait un sens pour la société civile, pour les utilisateurs d'ALAC et d'ATLARGE. Voilà, c'est pour cela que nous sommes là. C'est ça notre rôle. Merci beaucoup, Sandra. Nous avons maintenant Alberto Soto, qui n'a pas pris la parole. Je n'accepte plus personne dans la queue. Je donne la parole aux personnes qui n'ont pas parlé encore. Oui, Alberto Soto, qui va prendre la parole en espagnol. J'ai entendu des gens qui utilisaient des termes comme, par exemple, critères d'inclusivité, commencer à faire quelque chose, participation. Je vois ici, dans ce modèle, deux choses qui m'intéressent beaucoup et qui sont les gouvernements et les utilisateurs finaux. En tant que membre d'ATLARGE, je vais me consacrer au travail d'être large, je suis un représentant des utilisateurs finaux. Ce n'est pas que le reste ne m'intéresse pas, mais c'est mon travail, c'est mon boulot, hein, je suis obligée de le faire. Donc, je vais vous donner un exemple d'un atelier qui a eu lieu il y a quelque temps à Saint-Domingue. J'ai eu la chance d'avoir, dans une seule réunion, et des représentants de tous les utilisateurs des parties intéressées ou des parties concernées. Il y avait des fournisseurs de télécommunications, des gouvernements, des fournisseurs de services, des utilisateurs de la société civile, utilisateurs finaux, communautés du secteur éducatif, etc. Il y a eu un moment où quelqu'un, un fournisseur d'Internet, a dit « l'ICANN ne peut pas se mêler à cela ». Nous voulons, lorsque nous voulons augmenter les prix ou faire des prix différentiels, l'ICANN ne peut pas s'en mêler. Et un utilisateur final a dit non, cela affecte la neutralité du réseau. Donc vous voyez ici, c'est un exemple clair de la façon dont les choses peuvent fonctionner. Moi, je suis très pragmatique, c'est pour ça que je vous donne cet exemple. Ce que je veux dire, c'est que cet utilisateur final qui a une opinion, cette opinion peut modifier les politiques au sein de l'ICANN, hein. Et donc, j'ai expliqué à cet utilisateur final, au fournisseur d'Internet, comment fonctionne le modèle de prise de décision de l'ICANN. Et un autre exemple que je voudrais vous donner, c'est que le 15e siège que nous avons élu, hein, c'est une personne qui a une opinion, mais qui n'est pas liée, hein, aux associations d'at-large. Donc, un autre exemple, lorsqu'une organisation veut se présenter et travailler comme ALS, les RALO n'ont pas de pouvoir de décision. Cette décision finale, elle se trouve au niveau d'ALAC. Et à plusieurs occasions, cette opinion n'a pas coïncidé avec ce que nous pensions, alors que nous sommes les représentants des utilisateurs finaux. Donc, nous avons besoin, et nous avons des organisations dans nos RALO, hein, qui ont un contact très important avec les utilisateurs finaux, à tel point que une de ces organisations a présenté 200 plaintes contre des problèmes liés à l'Internet. Hein. Et c'était les utilisateurs finaux qui étaient parmi ces gens qui ont fait des plaintes. Hein. Donc, on a un feedback. Hein. On entend le feedback. On constate l'existence du feedback des utilisateurs finaux. Mais actuellement, je voudrais savoir comment est-ce que l'utilisateur final va réellement participer pour la génération de politique si, d'un côté, on donne notre opinion, puis c'est tout. Et est-ce que on peut, parce que très souvent, on me demande, moi j'ai une organisation qui peut être certifiée comme ALS, par exemple. Quels sont les bénéfices que je tirerait du fait d'être une ALS. Alors, moi, je n'ai pas encore vu qu'on puisse modifier une politique au sein de l'ICANN, par exemple. Donc, quels seraient ses bénéfices? Merci, Roberto. Maintenant, nous avons Carlos Aguirre. Merci, Léon. Carlos Aguirre prend la parole. Il me semble que ce que j'allais dire vient d'être dit par Marily et d'être redit par Alberto Soto, ou complété. Je suis tout à fait convaincue que le modèle, il n'y a qu'un seul modèle, même s'il y a plusieurs mises en œuvre, il n'y a qu'un modèle. Et selon les thèmes, hein, je pense que c'est une bonne chose que selon les thèmes, il y ait certaines personnes qui aient plus d'impact ou pas. Mais ce qu'il faut garantir à l'utilisateur final, à notre communauté d'at large, ce que nous devons garantir, c'est qu'au moins l'inclusion et la participation de la communauté, la possibilité de débattre de ces thèmes-là, indépendamment du fait que lors de la mise en œuvre ensuite, il y ait d'autres acteurs qui vont avoir davantage de poids. Hein. Mais le minimum qu'on peut demander, hein, c'est que il y ait une inclusion, il y ait une participation et que ces acteurs puissent participer à la discussion, hein, ce qui va impliquer une série de questions, comme par exemple le fait que l'on donne davantage de capacités aux utilisateurs, qu'il nous faut former des leaders, il nous faut construire une compétence chez ces utilisateurs pour qu'ils puissent travailler de manière responsable. Ensuite, nous devons aussi assurer que ces leaders seront capables de participer à ces discussions. Et là, je pense qu'il va nous falloir le mettre dans notre déclaration finale. Je ne veux rien forcer. Bien sûr, il faut qu'on soit tous d'accord pour le faire. Mais je pense que, comme Marilyn l'a dit, c'est un thème de discussion, de cette grande discussion, un thème qu'on n'a pas encore abordé. Il faudra provoquer cela. Il faudra en parler, aborder le thème et dire, nous, au sein de notre communauté at large de l'ICANN, nous pensons, nous voyons telle ou telle chose et nous voulons que telle ou telle chose se produise. J'ai trouvé que ce qui a été dit lorsqu'on a parlé de la révolution, et il faut la faire, on la fait en la faisant, c'est une bonne chose. Une autre expression que nous utilisons ici, c'est faire en faisant. On apprend tous et apprendre en faisant. On apprend tous sur le tas. C'est comme ça qu'on apprend. Il faut continuer à apprendre comme ça. C'est comme ça qu'on va tous se former. C'est sur cette voie qu'il faut continuer à suivre. Je n'ai pas été très convaincue lorsqu'on a dit que donc s'accroître, avoir une amélioration de manière inclusive, c'est long, ça demande de la patience et du temps. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je préfère la révolution que l'on apprend à faire en la faisant. Je crois qu'on est là pour apprendre des choses, pas vraiment pour être patient, pas vraiment pour maintenir le statu quo. Je crois qu'on est là pour apprendre et échanger certaines choses. Et puis, un dernier point qu'a abordé Sandra, quand elle a dit que tout le monde a une voix et doit pouvoir l'utiliser, je crois que c'est ça, c'est ce concept de base qu'il nous faut appliquer. On a une voix, on peut l'utiliser et qu'on nous laisse utiliser cette voie, qu'on ait la possibilité de l'utiliser, que ce modèle de multipartite, concerné, et soit vraiment ce modèle, un modèle de ce type, un modèle dans lequel tout le monde puisse dire ce qu'il a à dire. Voilà, c'est tout. Merci.
Thank you.
Merci beaucoup, Carlos. Dernier intervenant, Siba Solamania. Eh bien, j'aimerais revenir un petit peu à l'ICANN, à ce modèle multipartite. Dans différents pays, à différents moments, différents problèmes n'ont pas été résolus ou n'étaient pas gérables et on ne réussissait pas à les résoudre. Aux États-Unis, par exemple, il y a des groupes de pression qui sont très forts. Et il était très difficile de retrouver un équilibre, par exemple, pour le tabac, pour les assurances. On l'a vu dans certains domaines. Les lobbies jouaient un grand rôle. Moi, j'ai un regard un petit peu externe à cela. Donc, on pourrait dire que certains secteurs étaient déséquilibrés et étaient devenus ingérables, incontrôlables. Par exemple, le secteur financier, le secteur des banques. Et je ne dis pas qu'ils sont malfaisants, mais de par leur taille, ils deviennent ingérables et la gouvernance est extrêmement difficile, même pour les gouvernements qui ne peuvent plus les gérer ou les contrôler. Donc, l'harmonie religieuse entre les cultures est toujours difficile à atteindre, bien entendu. Il y a plusieurs formes de gouvernance dont on a parlé tout à l'heure, la monarchie, la démocratie participative, et ainsi de suite. Où il me semble que le modèle multipartite est l'avenir, l'évolution supérieure par rapport aux formes antérieures de gouvernance, et que l'avenir du multipartisme, c'est l'avenir même de la gouvernance. Si les gouvernements, que ce soit l'Allemagne, l'Inde ou les États-Unis, si les gouvernements peuvent prendre en compte le modèle multipartite et apprécier ce que l'ICANN, par exemple, a à offrir au monde comme modèle expérimental, eh bien peut-être que dans 50 ans, on aura réussi à mettre en œuvre un modèle multipartite pour les gouvernements également. Et que le travail qu'on est en train de faire actuellement à l'ICANN sera un modèle qui restera et qui sera vu comme quelque chose qui peut influer sur d'autres. Eh bien, nous allons prendre une petite pause de 15 minutes pour que nous puissions reprendre un petit peu des forces et se retrouver dans 15 minutes pour commencer à débattre des questions peut-être en groupe ou d'autres questions d'ordre général. Donc, on se retrouve dans 15 minutes. Merci.